aux demandes de la CGT Spectacle et du Syndéac. Je voulais vous dire que moi, personnellement, et je pense que l'ensemble des gens qui travaillent ici avec moi sont tout à fait solidaires de votre mouvement, que j'ai eu un très violent échange à la radio cet après-midi avec un représentant de la droite forte sur ce sujet. Et la satisfaction, pardonnez-moi de la dire et d'être un tout petit peu content, c'est qu'ils ont fait un sondage sur les auditeurs et les gens qui étaient dans le public, et 70% des gens étaient favorables à notre cause. Voilà.
Ça sert de bourrer les salles. Hein. Quoi ? Ça sert de bourrer les salles.
Voilà. Donc, persuadé bien évidemment qu'un pays sans culture coûte beaucoup plus cher qu'un pays avec, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite la bienvenue et une très bonne Assemblée Générale.
Merci Jean-Michel.
Donc, merci encore à Jean-Michel Ribes et à toute l'équipe du Théâtre de Rond-Point de nous accueillir dans un délai très court. Nous avons, dans un délai très court, pour convoquer cet AG et parce qu'il y a besoin d'informations et de débattre. Et puis, par ailleurs, sans lien avec le délai dans lequel est convoqué, on doit finir à 21h pour respecter l'accord passé et de permettre à ceux qui travaillent ici, qui travaillent depuis ce matin tôt, de finir. Donc, ça nous fait un temps court. On pense qu'on a tous besoin de vous donner un maximum d'informations parce que c'est un mouvement qui repart de façon cyclique avec la négociation d'assurance chômage. Donc on prendra la parole en essayant d'être bref, mais en donnant les informations, et puis ensuite on échangera dans la salle là-dessus. Je vais me présenter d'abord. Je suis Denis Gravouille. Je suis depuis le mois de septembre secrétaire général de la Fédération CGT du spectacle, du cinéma, du visuel et de l'action culturelle. C'est l'intitulé complet. On sera plusieurs de nos syndicats de la Fédération. Samuel, de la CIP Île-de-France, prendra la parole aussi. Je sais qu'il y a des camarades défauts qui sont là, ici, qui voudront dire un mot. Donc, et puis Fabien, du Syndéac, voilà, je cherchais, mais c'était juste à côté de moi, est ici aussi. Donc, juste déjà pour vous donner un peu les enjeux, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait, nous qui baignons dedans, de ce qui se passe. Comme vous le savez, la négociation d'assurance chômage, qui concerne les droits de tous les demandeurs d'emploi, est en renégociation, comme elle l'est de façon cyclique, tous les 2 ou 3 ans, et là, ça faisait 2 ans qu'elle arrivait à échéance. Ça aurait dû arriver à échéance au 31 décembre. Il y a eu une prorogation parce que les syndicats d'employeurs et de salariés étaient occupés avec d'autres négociations, notamment sur la formation professionnelle. Donc, avant le 31 mars 2014, nous devons négocier une nouvelle convention d'assurance chômage qui concerne tous les demandeurs d'emploi, les droits de tous les demandeurs d'emploi. Alors comme maintenant il y a eu la fusion ANPE-ACEDIC, les demandeurs d'emploi vont à Pôle emploi, ne savent pas forcément très bien ce que c'est que l'UNEDIC, mais l'UNEDIC ça existe toujours. Avant l'UNEDIC c'était le chapeau de tous les ACEDIC, et l'UNEDIC existe toujours parce que c'est toujours là que se décide la réglementation, la façon dont on collecte les cotisations et dont on reverse les allocations. Les dates de négociation, elles ont déjà commencé depuis fin décembre, mais là on est rentré dans le dur. Jeudi dernier, jeudi donc 13 février, et il y a 2 autres dates de négociation qui sont posées, qui sont le jeudi 27 février, la semaine prochaine, et une autre date conclusive, normalement, le 13 mars, un autre jeudi après-midi, ce qui fait très court. Et la dernière fois, quand je dis qu'on est rentré dans le dur, c'est qu'on a eu connaissance, alors évidemment les différents syndicats, pour ma part je fais partie de la délégation CGT, et donc on a fait des propositions sur le régime général, qui sont évidemment d'améliorer les droits, et notamment d'ouvrir, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais d'améliorer les droits, puisqu'il y a quand même plus d'un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé par l'assurance chômage dans ce pays, ce qui est aussi valable pour un salarié, un comédien de spectacle sur deux. Nos camarades défauts ont aussi des propositions, différents syndicats ont des propositions. La CDT a très peu de propositions, elle n'a pas écrit, mais elle dit juste qu'on mettra en œuvre les droits rechargeables. Bon, pourquoi pas, nous aussi on veut mettre en œuvre les droits rechargeables, sauf que certains veulent le faire à coût constant, donc ça veut dire enlever de l'argent à certains pour en donner à d'autres. ce qui est déjà un problème en soi, mais pour le MEDEF, c'est carrément une remise en cause totale des droits de beaucoup de monde, et on a eu connaissance la veille, vous pouvez le consulter sur le site des Échos par exemple, des propositions du MEDEF et de l'ensemble de la partie patronale, hein, puisque c'est le MEDEF qui l'amène, il n'y a que le MEDEF qui parle, représentant Jean-François Pillard du MEDEF qui parle, Gauthier Sauvagnac est en prison, enfin il n'est pas encore en prison, mais il doit aller en prison, hein. Celui qui négociait avant, vous avez entendu parler de ça. Mais il fait appel, donc il n'y est pas encore. Mais bon, le nouveau, Jean-François Pillard, lui, il n'est pas en prison et il négocie. Et donc... Donc, Jean-François Pillard, on négocie avec. Et donc, les propositions qu'ils font, c'est... Je ne détaille pas sur le régime général, mais pour nous, c'est assez facile à résumer, parce qu'il y a 5 lignes ou 6 lignes en gras qui disent on supprime les annexes 8 et 10. Si l'État veut les conserver, il paye. Voilà, c'est assez clair. Ça n'a jamais été aussi clair. On a déjà eu des attaques frontales, et tout le monde se souvient de 2003, la preuve. On n'a jamais eu écrit noir sur blanc dans le premier document fourni par le MEDEF à la négociation, écrit on supprime les annexes 8 et 10. Si l'État veut payer, c'est la politique gouvernementale qui se démerde. C'est assez radical comme position, on va dire. Radical pour radical, on a immédiatement proposé à ce que l'AG se tienne. Certains y étaient jeudi dernier au théâtre Paris-Villette. AG qui s'est fait pendant que la négociation avait lieu. Et donc, un groupe issu de l'AG, dans lequel étaient certains ici, est allé dans un des bâtiments du ministère de la Culture, qui est tout près de la rue de Valois, les bons enfants, rue du Faubourg-Saint-Honoré, et y est resté pour demander, exiger une prise de position de la ministre de la Culture et du Travail pour nous soutenir. Bon, on a eu un communiqué qu'on a trouvé un peu mou, mais dans la foulée, on a eu une interview de Aurélie Filippetti hier dans Le Parisien, que vous avez eu certainement connaissance, qui est très clair. Ne boudons pas notre plaisir, son interview est extrêmement claire, elle parle même de deux choses qui sont très importantes pour nous, c'est qu'il n'est pas question de revoir les seuils d'ouverture de droit, c'est un point évidemment éminemment dur, parce que tout relèvement des seuils, ce sont des salariés intermittents qui perdent une allocation au chômage. On a déjà vu ce qui s'est passé en 2003 quand c'est arrivé. Et qui dit il faut étudier les propositions. Alors, c'est les entrepreneurs du spectacle, ça fera plaisir au syndéac, mais il se trouve que c'est un petit peu un groupe complet, puisque notamment. C'est basé, nous faisons des propositions à la CGT qui, dont les grandes lignes sont basées sur, qui le fout la poule, mais qui, sur les préconisations de ce qu'on appelle le comité de suivi. Comité de suivi, Samuel peut-être en dira un mot ou d'autres, avait été mis en place, c'est un groupe de coordination entre guillemets, entre des parlementaires, députés et sénateurs, alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes que 2003 ou 2007, hein, évidemment il y a eu des élections entre-temps. Et des organisations qui défendons notre régime d'assurance chômage pour les intermittents du spectacle. Voilà un peu où on en est. On va faire des propositions, on va en débattre pour dire qu'on ne va pas se laisser faire. D'abord, il y a des choses à dire dans le champ de nos métiers. C'est pour ça qu'on est là le plus unitairement possible pour défendre ces propositions, non seulement défendre le régime au sein de la solidarité interprofessionnelle, mais défendre l'étude de nos propositions. Certains se souviennent qu'en 2006, nos propositions avaient été chiffrées par l'UNEDIC et que Gauthier Sauvagnac, celui qui est en prison là, pas encore, mais presque, il avait dit « c'est sûr, nos propositions sont meilleures, elles sont même moins chères, mais il n'est pas question de les étudier parce que ce serait remettre en cause ce que nous avons fait ». Voilà, c'était un pacte avec la CFDT à l'époque. Bref, donc, ça c'est pour nos métiers. D'autre part, évidemment, quand je disais que la remise en cause des droits à l'assurance chômage pour l'ensemble des demandeurs d'emploi est extrêmement grave, c'est ce qui nous conduit à dire, bon, il y aura des mobilisations qui concernent au-delà de nos métiers sur lesquels il faut... Nous, on a démarré au quart de tour, mais il faut que ça déborde, quoi, très clairement. Et en même temps, il faut aussi rappeler que dans nos métiers, comme dans d'autres, on est soumis à des normes contraintes. On était lundi dernier en marche pour la culture, je pense que certains d'entre vous y étaient aussi, parce que, on nous dit aussi que le ministère de la Culture pourrait voir son budget amputé de 20% dans les trois prochaines années. De 20%, oui. C'est bien beau de se battre. Évidemment, on va continuer à se battre sur l'assurance chômage, mais s'il n'y a plus de travail parce qu'il n'y a plus d'investissement public, on risque d'avoir des soucis. Bref, tout ça pour dire qu'on doit se battre sur beaucoup de fronts, mais ça fait plaisir de voir que la salle est archi pleine et qu'on va se battre tous ensemble. Je signale, parce que j'ai signalé à la présence de plusieurs organisations qui sont à la tribune, mais dans mes camarades de la CGT, il y a mes camarades du syndicat des journalistes CGT qui sont ici, et qui sont là aussi parce que dans la dimension interprofessionnelle, c'est très important. Et je vois arriver mes camarades de l'Union syndicale de l'intérim CGT, puisque un des secteurs qui est aussi attaqué, autant attaqué que le nôtre, c'est l'annexe 4 des intérimaires, puisqu'il est proposé de la remettre en cause. Voilà, donc... Voilà, donc mes petits camarades rajoutent un mot.
Le syndicat, parce qu'il était attaqué.
Bonsoir. Alors effectivement, pour ceux qui y ont pris part, mais beaucoup d'autres ont dû voir les résumés dans la presse de l'action coup de poing de jeudi après-midi au ministère, notre exigence était très simple. C'est qu'on a constaté dépité que le jeudi à 13h, il n'y avait toujours aucune communication gouvernementale suite à l'attaque sans précédent du MEDEF sur la remise en cause pure et simple des annexes 8 et 10 le mercredi matin à 9h. Donc, effectivement, c'est assez symptomatique de constater qu'en 28h, il n'avait pas trouvé le temps de réagir, si ce n'est une petite déclaration sibylline du Premier ministre le matin même, le jeudi matin sur Europe 1. Mais qui ne disait rien d'autre que le MEDEF fait fausse route. On attendait bien plus, et donc on est allé le chercher rue de Valois, ou juste à côté, et finalement, comme le communiqué obtenu de la ministre à 15h30 n'était toujours pas satisfaisant, on a obtenu audience, et dans le bureau de la ministre, la discussion pendant plusieurs dizaines de minutes, assez vif sur certains points, a permis quand même de réexposer ce qu'on avait pourtant déjà dit maintes et maintes fois, sur le fait de ne pas durcir les conditions d'éligibilité au système de l'intermittence, qui aurait comme effet, une nouvelle fois, d'exclure les plus précaires, donc les plus nécessiteux de ces allocations chômage, mais de garantir un retour à la date anniversaire sur 12 mois avec 507 heures, et en contrepartie, quand même, parce que c'est un équilibre à trouver, le plafond de cumul salaire-indemnité, qui aurait le mérite de justement ne pas sanctionner les plus fragiles d'entre nous. La ministre a entendu ça, puisqu'elle l'a ressorti quasiment mot pour mot dans son interview de dimanche, ce qui prouve bien, n'en déplaise à ses conseillers, et grâce à des arbitrages au plus haut niveau, que quand les choses peuvent être exigées de notre part, à travers des actions un petit peu musclées, on peut obtenir gain de cause, et notamment des déclarations sans ambiguïté de la part de la ministre, mais a priori c'est quand même la moindre des choses que la ministre de la Culture se dise aussi solidaire du sort des artistes et techniciens relevant de son secteur. En tout cas, voilà, c'est une belle illustration de la mobilisation nécessaire et qui peut très vite porter ses fruits en quelques heures, quelques jours, et qu'il faut poursuivre parce que l'opinion publique est loin d'être majoritairement acquise à notre cause. Il faut faire œuvre de pédagogie. Le patronat... en tout cas, pas celui de la culture, pas celui de notre secteur, celui qui est à la table des négociations, donc en premier lieu le MEDEF et la CGPME, ne sont pas du tout évidemment favorables, mais ça c'est historique à nos annexes, et n'entendent pas du tout les arguments venant de la profession, et comme ça a été dit, on porte des préconisations communes, ce qui est rarement le cas, on l'a dit là aussi à la ministre et au directeur de cabinet du ministre du Travail. C'est assez exceptionnel d'avoir un secteur d'activité dont, en tout cas sur ce point de l'intermittence, une grande majorité des organisations patronales et salariales peuvent se rejoindre sur des préconisations les plus élémentaires pour établir de la justice sociale, de l'équité et un caractère mutualiste à ce régime d'assurance chômage relevant, c'est bien important, de la solidarité interprofessionnelle. La lutte, elle doit se poursuivre aussi sur les deux jambes qui font aujourd'hui nos activités, qui sont à la fois les politiques publiques à travers la préservation et même le développement des budgets tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales. Et ça, c'est un volet important de nos combats actuels, puisque les perspectives, Denis le citait, sur 15, 16, 17, c'est pour aboutir aux 50 milliards d'économies voulues par le président de la République dans ses vœux à la presse en janvier. Il faut faire économiser à tous les ministères, et le nôtre pourrait subir 500 millions d'euros d'économies au fil des 3 années. Et c'est en train de s'arbitrer entre Bercy, Matignon et l'Élysée. Donc il faut se faire entendre aussi sur ce volet-là, puisque sans argent public, plus de développement, plus d'emploi, et sans emploi, évidemment, plus d'intermittence. Tout est lié. Donc nous, on pense qu'il faut continuer à marteler les deux. C'est pas simple, parce qu'il faut pas qu'un mot d'ordre en court-circuite un autre, mais il faudra bien continuer à marcher sur nos deux jambes. Ça semble indispensable.
Bravo, Fabien.
Je signale juste qu'il y a encore plein de places de libre. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez vous approcher.
Oh, pas plein, non.
Ah, plein,
quelques
encore...
places.
D'accord, t'as raison. Il y a encore des places de libre dans les premiers rangs, donc avancez là, hein, parce qu'il y a une trentaine de places de libre sur presque 800, c'est pas mal.
Alors, l'appel à cet AG a été fait par la CGT, le Syndéac et aussi la coordination des intermittents et précaires. Et j'interviens pour cette coordination. Je dois... Remercions la présence de Jack Ralit qui on donnera la parole.
Très belle tribune.
Qui a créé une très belle tribune avec Tasca, là, dans le monde. Et il était du comité de suivi avec nous en 2003-2004. Il était de tous les combats. Merci pour ton indéfectible soutien.
Tu prendras la parole, Jacques, c'était prévu.
Même avant 81, il était là.
Bon. Moi, je vais vous parler de ce qui se joue là, parce que c'est bien que vous soyez très nombreux. On ne gagnera rien simplement nous, en discutant, en avançant sur le dossier, on ne gagnera rien si on n'est pas nombreux à lutter. L'attaque du MEDEF, je ne dis pas qu'elle est bidon, mais elle est très intelligente. Mais on est au niveau du souk de Marrakech, c'est-à-dire que là, le MEDEF tape très fort, en sachant que de toute façon, leurs propositions ne pourront jamais être prises en compte, parce que même la CFDT ne signera pas une abolition des annexes, et que Michel Sapin ne validerait jamais, ne donnerait jamais l'agrément à un protocole d'accord où les annexes U10 auraient disparu. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit évidemment de faire très peur en disant... On propose la disparition des annexes, ok. Bon, alors on va être un peu gentil avec vous. Si on négocie, on va négocier ferme et vous allez faire des efforts certains. Bien. Donc évidemment, ce qu'on peut avoir peur, c'est que la prochaine proposition, ce soit de grandeur d'âme du MEDEF, de dire, ben voilà, finalement, on va maintenir les annexes, mais on va maintenir l'annexe 10 et puis les techniciens, on va la faire disparaître. Ou alors, on va réduire les droits... et augmenter, diminuer le horaire, c'est-à-dire que durcir les critères d'accès. Bien. Alors, il faut être très clair avec ça. Non seulement c'est une ligne rouge qu'il ne faudra pas franchir, parce que vous comprenez qu'il y a deux paramètres, j'explique toujours ça, il y a deux paramètres. Hein. Il y a le paramètre des critères d'accès, et cela touche toujours les plus précaires, les artistes et les techniciens les plus précaires. Et puis il y a le paramètre du cumul salaire plus indemnité, cela il touche le pognon. Et ce qui s'est passé en 2003, c'est qu'il y a eu un transfert de fric, c'est-à-dire que le protocole coûte le même argent que précédemment, mais on en fait un transfert d'argent des plus pauvres vers les plus riches. C'est-à-dire qu'on a dit, on va éliminer les plus fragiles, et par contre, le fric qu'on va toucher avec l'élimination des plus fragiles, on va le donner à des gens qui n'en ont pas besoin, qui sont bien indemnisés, qui travaillent beaucoup. Bien. Et on nous a fait le coup des économies. Et là, on nous continue à nous faire le coup des économies. Bien. Alors, par rapport à ces économies, il faut arrêter de courber les chines. Je vous le dis tout net. On a démontré dans les ripostes, etc., etc., ce déficit est une vaste connerie. Hein. J'espère que vous l'avez bien compris. Si vous prenez n'importe quelle catégorie de chômeurs et que vous faites la différence entre les cotisations versées et les indemnités perçues, évidemment, vous tomberez toujours sur un déficit. Hein. Comme l'a rappelé Sapin à l'Assemblée nationale, le chômage est structurellement déficitaire. C'est aussi con de prendre des contrats d'assurance des gens auto qui ont un accident de voiture dans l'année. Ceux-là sont toujours déficitaires. Si on oublie les gens qui n'ont pas d'accident mais qui cotisent, c'est sûr que si on les oublie, on arrivera toujours à un déficit. C'est aussi con que ça. Bien. Donc cette histoire de déficit, c'est une immense pantalonnade. Regardez Harry Potter, j'ai vu, mais c'est une immense pantalonnade. Bien. Alors là, on nous a bassinés avec cette histoire de déficit, et puis on s'aperçoit qu'en fait, de toute façon, encore une fois, la réforme n'était pas faite pour résoudre ce problème de déficit, mais était faite pour éliminer les gens. Uniquement éliminer les gens. C'était leur obsession, éliminer les gens. Bien. Alors là, on nous a vendu, et je vais continuer dans le raisonnement, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas courber les chines. Et puis, il faut aller plus loin que ce que dit Philippe Petit, il faut vraiment mettre en avant le retour à une date anniversaire, 507 heures 12 mois, parce que ce qu'on subit depuis 10 ans, ce n'est pas adapté à nos pratiques, et ce n'est pas vertueux, et c'est un système qui n'est pas adapté aux pratiques intermittentes. Bien. Il faut revenir à un système redistributif, parce qu'encore une fois, comme je le répète, ouvrir des droits sur une période, ça n'a rien à voir avec ouvrir des droits sur un montant. On peut très bien ouvrir des droits sur une période et ne pas être indemnisé parce qu'on est touché par la franchise ou par un cumul. Okay, vous avez une ouverture de droits, mais vous n'êtes pas indemnisé, en gros, parce que vous êtes trop riche. Bon. Alors que si vous avez des droits sur un montant, eh bien, plus vous cotisez, plus votre montant sera élevé, et tout le monde, même les plus riches, ont le droit au montant, et le montant sera encore plus grand, vous avez beaucoup cotisé. Ça s'appelle l'assurance. Et ça, on n'en vaut pas. Bien. Mais on nous a vendu, vous avez bien suivi le débat, donc là je vais arriver à un élément nouveau que je vais développer ce soir, grâce à Mathieu Grégoire qui a fait l'enquête pour le Syndéac, et c'est un élément nouveau qui est extrêmement intéressant. On nous a vendu depuis un an 320 millions d'euros, qui était en fait le vrai coût, soi-disant, des annexes. Bien. Et en fait, c'est parti du débat parlementaire, de l'émission d'information parlementaire sur la culture, on a tous été auditionnés. Et alors, et tout d'un coup, il y a un conseiller d'UNEDIC qui leur a mis ça sur la table, il dit, vous savez, hein, si vous virez les intermittents, ils seront en régime général. Et au régime général, ils toucheront de l'argent, ils coûteront. Hein. Eh bien, la différence, c'est qu'au lieu de coûter 1 milliard, ils coûteront 700 millions, donc en fait, on peut dire que les intermittents coûtent 300 millions. D'accord ? Au lieu de coûter 1 milliard, ils coûteront 700 millions, donc la différence, c'est 300 millions. Donc, on voit partout, ah non, le vrai déficit, encore une fois, qui n'est pas un déficit, qui est une balance analytique, mais le vrai déficit, c'est pas 1 milliard, c'est 320 millions. Alors là, on courbe encore les chines, on dit, bon, d'accord, ok, c'est pas 1 milliard, mais on coûte quand même plus cher que les autres, etc. Et alors là, je vais vous démontrer l'imbécilité de ce raisonnement. C'est un raisonnement absolument imbécile, ça ne tient pas. Et en fait, on peut remercier le MEDEF, parce que c'est grâce au MEDEF qu'on a pensé au raisonnement inverse. Je vous explique. Le MEDEF, dans son document, là, pour justifier la réforme, dit, bon, on va prendre le cas d'un gars qui touche 4 mois de chômage, qui travaille pendant 4 mois, ok, le gars, il travaille pendant 4 mois, il est au régime général, et ce gars-là, il se trouve au chômage, et le gars, il va toucher que 4 mois de chômage. Parce que dans le régime général, c'est un jour travaillé, un jour indemnisé. Donc ce gars-là, il va toucher à partir de 4 mois. Ce gars-là, il va toucher 4 mois de chômage. Très bien. Alors que s'il était chez les intermittents, ce gars-là, il travaille 4 mois, il va toucher 8 mois de chômage, des 243 jours. Donc vous voyez, comme les intermittents sont super privilégiés, parce que dans un cas, le gars, il touche 4 mois, et dans l'autre cas, il toucherait 8 mois. Et là, avec Mathieu, on s'est dit, mais bordel, ils sont en train de nous avoir. Mais voilà l'argument. Ils prennent un exemple qui les arrange. On peut prendre des tonnes d'exemples qui nous arrangent. Et c'est là où, quand on a fait la démonstration inverse, on se dit, je pose des règles. Au régime général, c'est 610 heures sur 28 mois pour ouvrir 4 mois de droit. Donc, si on applique le régime général au régime des intermittents, il y a tout un tas de gens qui ne seraient pas indemnisés. Parce qu'ils ne feraient pas leurs 507 heures en 10 mois. Ils feraient 620 heures en 18 mois, machin, mais on ne trouverait pas 507 heures en 10 mois. Donc déjà, il y a plein de précaires qui ont intérêt d'être au régime général, dans le système actuel. Et puis ensuite, comme vous le savez, quand vous êtes au chômage à la suite d'une longue durée de travail, enfin de plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, enchaînement de CDD ou de CDI, vous percevez jusqu'à 2 ans de chômage, 2 ans de chômage si vous avez moins de 50 ans, hein, sans avoir à retravailler, et 3 ans de chômage si vous avez plus de 50 ans. Bien. Donc si vous basculez, si demain, on fait une projection, premièrement, on dit, c'est 100 000 intermittents indemnisés, si on les bascule au régime général, ça fait 320 millions d'euros d'économie. C'est juste. Ben alors, ça voudrait dire que si on prend 100 000 personnes du régime général pour les balancer chez les intermittents, ça fait 320 millions d'euros en plus. Et non. Et là, on ferait aussi des économies. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le dis, si demain, alors on va faire des projections, mais c'est très intéressant, si demain on disait tout le monde est intermittent, là, l'Unédic est excédentaire. Largement excédentaire. Pourquoi ? Parce que les gens du régime général, encore une fois, Mathieu a regardé, actuellement, on est à 48% de gens, 52% de chômeurs qui sont plus de 8 mois au chômage. Donc tous ceux-là qui viennent du régime général, qui sont plus de 8 mois au chômage, qui vont pouvoir toucher jusqu'à un an et demi, 2 ans et 3 ans s'ils ont plus de 50 ans, tous ceux-là, au bout de 8 mois, ils seraient en rupture de droit. Donc sur tous ceux-là, on gagne. OK ? Surtout les plus précaires, ceux qui ne font pas leurs 500 heures en 10 mois, qui font 610 heures en 28 mois, on gagne. Et je ne vous parle même pas du doublement des cotisations, parce que là, je n'applique que les règles de l'indemnité. Mais si on applique le doublement des cotisations au régime général, là, on gagne 18 milliards d'euros d'un coup, parce que notre secteur est doublé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant des projections, effectivement, si vous basculez les intermittents au régime général, on gagne 320 millions d'euros. Mais si vous balancez les gens du régime général aux intermittents, on gagne aussi pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le coût, c'est pas les économies, c'est le fait que quand on est basculé dans un régime qui ne nous correspond pas, on passe à travers les mailles du filet et il n'y a plus du tout d'argent distribué. Du moins, il y a une partie de la population, comme le régime n'est pas adapté, qui ne reçoit plus d'argent. Donc c'est pas en termes économiques, c'est simplement en termes que notre régime, hélas, n'est moins, mais est adapté à l'intermittence, le régime général est adapté à ceux qui ont un emploi permanent. Et il n'y a absolument aucun surcoût de régime. Encore une fois, si demain on fait la même projection, on balance 100 000 gars du régime général, et puis qu'on les choisit bien dans une population élevée, comme des cadres qui vont gagner jusqu'à 7 000 euros par mois, mais c'est pas du tout pour stigmatiser une population, mais je veux dire qu'on peut prendre 100 000 personnes du régime général, les balancer chez les intermittents du spectacle, et dire on fait 400 millions d'euros d'économie. Ce que je veux dire, c'est que même cet argument est complètement con. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on continue à courber les chines ou est-ce qu'on défend la chose juste encore une fois, quand on dit on ne veut pas de réforme, on veut évidemment une réforme. On veut une réforme. Et cette réforme-là, pourquoi elle est attaquée? On le sait, et nous on le dit depuis le début de la coordination. Pourquoi elle est attaquée? Parce qu'évidemment, dans une période de plein emploi, où les contrats courts sont la norme, deviennent la norme, eh bien évidemment... Cette réponse-là, qui était encore une fois, qui n'est pas une question d'exception culturelle, je la rappelle, au départ, c'était mis en place pour les travailleurs du cinéma, parce qu'on s'est aperçu qu'en période de plein emploi, ces gens-là avaient des pratiques d'emploi court. Ça aurait pu tomber sur les chaudronniers. Il se trouve que c'est tombé sur les techniciens du cinéma. Et puis après, on a adapté ça aux artistes, parce qu'on s'est dit, il faut répondre à des pratiques d'emploi. Ces pratiques d'emploi sont spécifiques. Elles ne sont pas les mêmes que les intérimaires qui travaillent plutôt sur des contrats beaucoup plus longs que nous, qui ont des périodes après de cours. Mais en tout cas, il y a des règles spécifiques. En tout cas, par exemple, pour les saisonniers, c'est pas exactement. Les saisonniers n'ont pas la même, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, on a essayé d'adapter des annexes au régime général pour adapter une règle à une pratique. Bien. Et effectivement, maintenant que les employeurs réclament de plus en plus de flexibilité et de plus en plus de contrats courts. Ce que le MEDEF ne veut surtout pas, c'est payer le prix de cette flexibilité et que notre régime spécifique d'assurance chômage donne des idées très justifiées à d'autres secteurs qui ont aussi des contrats courts et qui devraient mériter un régime d'intermittence du travail. Voilà. Et cette chose-là, ce débat-là, évidemment, c'est pas du tout pour dire pour réélargir. Il est très important de défendre nos droits dans nos secteurs. Mais il ne faut pas oublier que défendre nos droits dans nos secteurs, ça ne veut pas dire ne pas parler des autres qui, actuellement, n'ont pas de réponse à la précarité, que nous avons encore un peu, même si, encore une fois, les règles sont très mal adaptées depuis 2003, avec cette période flottante, avec tout ce qu'on sait, hein, mais cette réponse à la précarité, il est bon qu'on se la pose, parce que sinon, effectivement, on nous posera toujours le débat sur le compte des privilèges, sur le compte du monde de la culture, etc., etc., nous, nos droits, ce ne sont pas un privilège, c'est une réponse juste à notre précarité. Et sachez-le, si là, en ce moment, si Avignon n'avait pas été annulé en 2003, nous ne serions pas là tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en 2004, qu'on obtient tout ce qu'on obtient grâce
à la lutte, grâce au comité de suivi, grâce à un ministre qui est viré, avec Don Dieu de Bap qui prend la place et qui dit ok, les partenaires sociaux, machin, pendant deux ans, il a rattrapé 30 000 personnes, il a mis du pognon. L'État a mis du pognon, complètement débile. Pendant deux ans, l'État a mis du pognon pour rattraper ceux qui ne faisaient pas leurs heures en 10 mois et demi, mais qui les faisaient en 12 mois. Là, on marche sur la tête, on avait un protocole UNEDIC qui coûtait au chuchère à l'UNEDIC, et l'État, en complément, qui a mis du pognon pour rattraper la connerie des gens, des incompétents qui avaient signé le protocole UNEDIC. Bien. Eh bien, s'il n'y avait pas eu l'annulation d'Avignon en 2003, en 2004, la peur de la future annulation d'Avignon aurait fait que ça n'aurait pas bougé. Et là, quand on a répété à la ministre de la Culture qu'il était hors de question de toucher aux critères d'accès, hors de question, que là, il y avait une ligne rouge à ne pas franchir. Et quand on répète ça aux journalistes, évidemment, la première chose que nous disent les journalistes, dire ligne rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire annulation des festivals? Ça veut dire quoi? On n'en est pas là. En plus, ce n'était pas une annulation, c'était une grève, trois grèves de suite qui ont conduit à une annulation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous sachiez que quelles que soient les expertises, quel que soit ce qu'on peut vous raconter, quels que soient les débats, quels que soient les trucs, si on n'est pas là tous à leur faire peur, on n'obtiendra rien, parce que, et je finirai là-dessus, au niveau paritaire, quelles que soient les qualités et les défauts de ces personnes, il y a, comme vous le savez, trois syndicats qui représentent le patronat, le MEDEF, l'UPA, CGPME. Aucun des syndicats des patrons du spectacle ne siège côté employeur, hein. Et sur les syndicats de salariés, il y en a cinq, CGT, FO, CFTC, CGC et CFDT, et sur le 5, avec une profession qui est peu syndiquée, mais peu importe, parmi les syndiqués, force est de reconnaître que tous les intermittents sont des syndiqués, sont partagés essentiellement à la CGT et un peu à FO. Donc en gros, évidemment, ce sont ces deux syndicats-là qui portent nos propositions, et donc on est toujours 2 sur 8. On est toujours 2 sur 8, voilà. Et 2 sur 8, au niveau du dialogue paritaire, on est perdant si on ne fait pas pression. Voilà, merci.
Voilà. Il faudrait que Sam nous invite tous à se syndiquer.
Nous avons donc occupé le ministère de la Culture, qu'il a fallu affirmer un certain nombre de choses en sortant, parce que la ministre et son cabinet avaient des expressions plutôt nuancées pour obtenir les déclarations qu'on a eues. Mais à cette occasion, on a été sollicité pour participer à des émissions de radio ou de télévision où on s'est trouvé confronté avec des responsables du MEDEF et de la CGPME. Donc moi, je laisse évidemment Sam sur l'analyse qu'il a faite. Nous, elle est sensiblement différente, même si elle revient à peu près au même, sur la façon dont le MEDEF et la CGPME entendent fustiger les annexes 8 et 10. Donc ce qu'on a apporté systématiquement au MEDEF et à la CGPME dans ces débats, c'est d'abord les constats. Les annexes 8 et 10, 1 milliard d'euros quand on compare les prestations servies avec les cotisations des soldes intermittents, ramenés à 320 millions d'euros si les intermittents étaient basculés dans le régime général, mais mettons 1 milliard d'euros. L'annexe 4, c'est-à-dire les intérimaires, c'est 5 milliards d'euros.
Non, 1,4 milliard.
1 milliard 4. Mais 8 milliards, c'est les CDD du régime général. 8 milliards d'euros. Plus, aujourd'hui, vous avez les ruptures conventionnelles.
4 milliards.
Qui coûtent 4 milliards d'euros. Mais le MEDEF et la CGPME fustigent les seules annexes 8 et 10. Et donc, quand nous répondons, et il faut répondre, par rapport à la politique d'emploi du MEDEF et de la CGPME. Aujourd'hui, dans nos secteurs d'activité, nous avons un usage constant du CDD. Ce qui ne veut pas dire que nous ne nous battons pas contre la permittence de l'emploi. Et dans le travail qu'on a mené sur les conventions collectives, nous nous battons pour que des CDI qui ont été transformés par une succession de CDD redeviennent des CDI. Mais majoritairement, très majoritairement dans nos métiers, et pour vous tous qui êtes là, et pour nombre de ceux qui ne sont pas là mais qui nous écouteront, ou en tout cas qui ont notre sympathie, nous relevons dans nos pratiques d'emploi dans nos pratiques professionnelles, non pas du CDI, mais d'un usage constant du CDD. Il en est tout autrement dans bien d'autres secteurs du MEDEF et de la CGPME, où le patronat, dans sa politique d'emploi, a cassé les CDI pour briser les salariés, pour accepter, pour qu'ils acceptent de travailler dans des conditions incroyables, avec des rémunérations incroyables. Nous sommes solidaires d'eux. Nous ne disons pas que ce sont des intermittents et qu'il faut leur appliquer l'intermittence. Nous leur disons que leur CDD participe à l'activité régulière et permanente de leur entreprise et qu'il doit être transformé en CDI. Et l'attaque du MEDEF aujourd'hui et de la CGPME, c'est pour fragiliser encore plus les CDD, c'est pour fragiliser encore plus les chômeurs et l'ensemble des salariés, pour qu'ils acceptent n'importe quelle condition d'emploi et de rémunération. Nous revendiquons un régime spécifique pour nos professions qui relèvent d'un usage constant du CDD et dans bien des cas ne peuvent pas relever de CDI et donc c'est la justification totale de nos annexes. Bravo. Et que ces annexes soient en déficit ou pas, nous avons un droit aux allocations chômage et nous devons avoir des droits qui correspondent à l'exercice de nos professions pour vivre de nos métiers. Et c'est ce que nous répondons au MEDEF et la CGPME. Et donc nous allons publier un argumentaire pour contrer la démagogie du MEDEF et de la CGPME et pour défendre ses positions auprès de l'ensemble des salariés et auprès de l'opinion publique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on va continuer d'organiser la lutte à Paris et en région. À la suite de l'occupation donc, du ministère de la Culture, nous avons appelé à cette Assemblée Générale, mais nous avons appelé aussi à une manifestation parisienne Île-de-France le 27 février prochain, qui partira de Palais-Royal pour aller au MEDEF et qui, nous l'espérons, rejoindra les manifs des chômeurs, des précaires, des privés d'emploi. Mais comme il n'est pas question, un dernier point, ce sera très rapide, comme il n'est pas question de lâcher la pression, nous vous proposons de faire un certain nombre d'actions symboliques entre cette Assemblée Générale et la manifestation du 27, et donc nous avons des listes qui sont là, tu te lèves. Nous vous demandons, pour ceux qui sont d'accord pour participer avec nous à des actions comme celle que nous avons fait avec l'occupation du ministère, d'inscrire vos noms, vos prénoms, vos adresses mail, et nous vous contacterons rapidement pour organiser des ripostes pour marquer l'opinion publique, pour marquer la presse et pour ne pas subir la campagne de désinformation totale du MEDEF et de la CGPM.
Bonjour, je suis Franck Gilbert, comédien, et je vais parler au nom du syndicat Force ouvrière des artistes interprètes, le SNLFO, ainsi qu'au nom de la Fédération pour sourire du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma et de la presse, la phase. Donc vous avez lu un communiqué pour certains à l'entrée de cette Assemblée Générale. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il depuis quelques jours, depuis quelques semaines, que de toutes parts, à nouveau, les arguments les plus dégueulasses soient développés et repris par certains médias contre ce que d'aucuns appelleraient nos privilèges, et le privilège d'une indemnisation qui elle-même serait un privilège. Et de quoi parle-t-on? Nous la connaissons, notre réalité. De contrats qui sont de plus en plus rares, de contrats qui sont de plus en plus courts. Quand on ne travaille pas
aujourd'hui, et en particulier pour les artistes, sans être entièrement payés pour la totalité du travail. Ce que vient de dire Marc est absolument exact. Depuis toujours, notre indemnisation chômage, dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle, est adaptée à nos réalités d'emploi. Et nous en avons besoin, pour survivre entre deux contrats de travail. Et c'est grâce à cette solidarité interprofessionnelle que non seulement le régime d'assurance chômage continue quand même à indemniser un certain nombre de travailleurs privés d'emploi, mais aussi des catégories comme nous, les artistes, les techniciens, certains personnels administratifs, dans le spectacle, au cinéma, dans l'audiovisuel, à être indemnisés entre deux contrats de travail. Les déclarations du MEDEF sont une déclaration de guerre. Ce que Denis, pour la Fédération CGT du spectacle, a indiqué en début de notre assemblée, je le rappelle, nous l'avons lu, nous l'avons entendu. Le MEDEF dit il n'y a aucune raison de perdurer dans ce régime spécifique qu'il appelle privilège. Donc, les salariés intermittents doivent désormais relever du droit commun et le surplus, si l'État considère qu'il y a des conditions particulières d'accès et d'indemnisation, qu'il les prenne à sa charge. Eh bien, parlons-en de qu'il les prenne à sa charge. Quand il y a eu les accords de 2003, quand il y a eu les accords de 2006, contre lesquels nous nous sommes battus, contre lesquels nous avons manifesté, contre lesquels nous avons fait grève, face aux menaces qu'un certain nombre d'entre nous, ce qui s'est confirmé depuis, soit exclu de toute indemnisation chômage, il y a eu replâtrage sur Jean de Bois, à Yagon avec son fonds provisoire, et Donodieu de Vabre avec son fonds transitoire. Alors parlons-en. 50 000 d'entre nous, salariés intermittents, sommes passés par ces fonds d'État pour être un peu indemnisés parce que nous ne relevions plus les nouvelles annexes 8 et 10. Et puis le scandale actuel, c'est que pour les collègues qui sont passés par ces fonds, les retraites complémentaires ne sont pas calculées. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas payé sa part de cotisation. Il a même retenu le précompte, 70 millions. Et d'un coup, Xavier Bertrand, ministre des Affaires sociales de l'époque, dit « Ah non, ce n'est plus de l'indemnisation, c'est de l'action sociale, je n'ai pas à payer ma part de cotisation. » Et c'est ça qui nous attend. Et c'est ça qui nous attend pour l'avenir s'il était mis en œuvre. Parce que quand Jean-Marc Ayrault déclare aux Parisiens le 13, jour même de la dernière séance de négociation, que le MEDEF ne doit pas poursuivre dans son erreur, mais que c'est les partenaires sociaux, mais pourquoi ne s'engage-t-il pas dès maintenant que l'État n'agréera pas la convention d'assurance chômage s'il y a le moindre changement, la moindre détérioration de nos conditions d'indemnisation et de nos conditions d'accès? Pourquoi ne le dit-il pas tout de suite? Alors oui, nous les connaissons, ces besoins. Ces besoins, nous les avions, et nous les avions jusqu'en 2003. Et en partie, nous les avons perdus. Donc il est juste, non seulement d'exiger que nos annexes soient maintenues, mais il est juste également d'exiger qu'il y ait une réouverture de droits pour 507 heures sur une période de référence de 12 mois, qu'il y ait 12 mois de durée d'indemnisation, qu'il y ait le retour à la date anniversaire fixe, qu'il y ait cumul des heures entre les deux annexes, qu'il y ait prise en compte des heures du régime général comme nous le connaissions, qu'il y ait prise en compte des heures indemnisées par la Sécurité sociale. Et le rapport de force, c'est les confédérations, forces ouvrières et CGT qui ont besoin de notre soutien pendant les prochaines négociations. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous avons besoin d'être des milliers, des dizaines de milliers, comme nous avons su le montrer en 2003, dans la rue, en particulier le 27 février. Nous proposons d'ailleurs l'organisation d'une manifestation nationale dès maintenant pour faire masse devant le MEDEF. Et puis, il y a le 18 mars. 18 mars, où les confédérations forces ouvrières comme CGT appellent à l'action, à la grève, aux manifestations pour défendre l'ensemble de la protection sociale. Et en particulier la sécurité sociale, et pour nous aussi, l'assurance chômage.
Quelle mauvaise foi.
Qui sont des droits, qui sont des droits de salariés. Et qui de toutes parts sont remises en cause.
Eh bien oui, comme l'a dit un technicien qui travaille dans un CDN de région parisienne lors de l'Assemblée de jeudi dernier, que nos employeurs le sachent, si on ne se fait pas entendre, il faudra faire cette grève. Et cette grève, elle sera en plein milieu des négociations qui ne seront pas terminées le 13 mars.
Deux, trois choses à dire. Évidemment, on a des éléments à donner. Nos camarades de l'Union syndicale d'intérim nous ont rejoints. Ils vont dire un mot parce qu'effectivement, c'est une attaque contre l'ensemble de nos droits. Angeline dira un petit mot et puis Fabien un petit mot à rajouter sur l'étude. Voilà. Et après, on donnera la parole à tout le monde.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'Union syndicale de l'intérim. CGT, comme son nom l'indique, c'est l'organisation qui regroupe les salariés et intérimaires, mais aussi les salariés permanents, les employés des agences. Donc, depuis déjà quelques années, le statut du travailleur intérimaire est impacté par toute une stratégie patronale qui consiste à démolir les uns après les autres les différents droits qu'on a acquis depuis une quarantaine d'années, quoi. Il faut savoir quand même que le statut du travailleur intérimaire s'est construit durant les 40 dernières années, avec un certain nombre de droits en termes de protection sociale, de formation professionnelle, de droits syndicaux. Ça a été des luttes extrêmement difficiles, très très dures, notamment dans les années 80 et les années 90. Et aujourd'hui, la stratégie qui est mise en œuvre pour démolir l'assurance chômage est une stratégie qui fait partie, disons, d'un... une stratégie un peu plus globale, ça vous le savez tous. Hein. Le patronat cherche à mettre en place, à expérimenter d'une part, mais aussi à mettre en place des nouvelles formes de domination sociale pour rendre les salariés au stade du semi-esclavage ou carrément l'esclavage. Ils veulent carrément revenir au contrat du 19e siècle, c'est-à-dire pas de contrat de travail. Donc le contrat de gré à gré. Ça, évidemment, durant ces dernières années, ils ont mis un certain nombre d'outils. Hein. L'attaque, l'offensive contre l'assurance chômage vient juste après la négociation qui s'est déroulée l'année dernière du fameux CDI intérimaire dont je pense que tous ici vous en avez entendu un peu parler.
Oui, on n'en veut pas.
Et effectivement, nous on ne veut pas le type de statut qu'eux ils veulent construire, qui est un statut où en fait l'intérimaire perdrait tous ses droits et serait dans des situations jetables de manière permanente, et bien sûr au rabais, sans aucun respect des conventions collectives, des entreprises utilisatrices, et j'en passe. En France, il existe 2,5 millions de salariés intérimaires. 2,5 millions de salariés intérimaires. Donc beaucoup d'entre eux sont des travailleurs pauvres, hein. Il y a quand même 12 millions de travailleurs pauvres dans ce pays, hein. Pas que des intérimaires, malheureusement. La négociation du CDI intérimaire qui a abouti en juillet dernier posait déjà les jalons de ce qu'ils allaient faire par la suite, c'est-à-dire s'attaquer à l'assurance chômage, c'est-à-dire pour nous l'annexe 4. L'annexe 4, c'est sûr, c'est un régime spécifique qui est le résultat aussi d'un certain nombre de bagarres qui ont été menées par le passé, mais le MEDEF n'agit pas tout seul dans cette histoire. Le patronat d'intérim, c'est-à-dire le Prisme Emploi, qui est le syndicat patronal de l'intérim en France, mais aussi Eurosiet, qui est le patronat européen de l'intérim, cherche à casser tous ces droits-là dont je parlais tout à l'heure, et effectivement l'annexe 4 fait partie des droits à démolir. L'objectif est clair. Il y a des camarades qui se sont exprimés ici tout à l'heure. L'objectif est de faire accepter n'importe quel emploi, à n'importe quel prix, avec la mobilité forcée à la clé, en fait, le service de travail obligatoire. C'est ça qui va se faire. Alors l'intérim, c'est très difficile à organiser syndicalement. On n'est pas au même stade que vous, hein. Vous, ça fait des années que vous battez aussi, mais bon, l'intérim, c'est la mobilité. C'est l'éclatement du salariat. On est dans une entreprise utilisatrice un jour, le lendemain on est dans une autre. On ne connaît pas les collègues de travail. Donc tout le monde se méfie parce qu'effectivement il faut manger. Et les contrats sont renouvelés à la semaine, voire à la journée.
Les contrats de longue durée, dans l'intérim, ça existait à une époque. Il en reste encore un petit peu dans certains secteurs d'activité, dans l'industrie, mais de moins en moins. Mais le patronat, il a contourné le code du travail et a réussi quand même à imposer, avec la complicité de l'État, bien entendu, et des différents gouvernements qui se sont succédés, ils ont réussi à rendre légal un élément qui est prévu dans le code du travail, c'est-à-dire on ne peut pas faire des contrats successifs du jour au lendemain. Le patronat a réussi, avec les gouvernements successifs, de pouvoir casser ce verrou présent dans le code du travail. Ils ont réussi à le casser. Donc aujourd'hui, ce sont des contrats courts d'une semaine, d'une journée, ça se répète, ça s'élargit, ça s'amplifie. Et l'Union syndicale de l'intérim CGT, nous l'avait comme revendication, on dit, écoutez, ici il y a un moyen, c'est surtaxer les contrats courts, et là on pourra renflouer les caisses de l'UNEDIC. Parce que si on surtaxe les contrats courts inférieurs à un mois, il y a quelques études, que ce soit de CECAFI ou y compris de l'UNEDIC même, qui indiquent que on peut renflouer les caisses de l'UNEDIC de 920 millions d'euros. Donc il y a de l'argent, il y a des possibilités de le faire. Donc nous, devant cette situation, on essaye d'organiser les intérimaires sur les lieux de travail. Effectivement, ce n'est pas une tâche facile, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Mais en tout cas, on est prêt à se battre avec vous et essayer de mobiliser, de construire ce rapport de force, parce qu'il faut absolument battre en brèche la stratégie patronale et donner aussi, redonner confiance aux salariés qui sont en train de souffrir dans les boîtes. Et au chômage.
Parole à la salle. Angeline, un dernier mot d'ici la tribune. On est un petit peu long, mais il y a pas mal d'informations à faire.
Oui, bonjour, je m'appelle Angeline Barthes, je suis secrétaire générale du SYNTAC CGT. C'est le syndicat des personnels techniques, qu'ils soient permanents ou intermittents, et administratifs et d'accueil. Donc en fait, je voulais intervenir, ça va être plus rapide que mes collègues, puisqu'il faut qu'on ait le temps de discuter. Sur une proposition qu'on fait, dont on n'a pas encore parlé, qui est dans nos propositions alternatives, une proposition pour une annexe unique qui regroupe les techniciens et les artistes solidairement, selon les mêmes conditions de travail. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant que vous savez un peu comment marchent les négociations, on arrive avec des propositions. Alors c'est vrai que de la part du MEDEF, ce n'est pas des propositions, c'est une provocation qu'il fait littéralement. Et donc on arrive avec des propositions, puis on négocie et on recule et puis on... voilà. Et en fait, il s'avère qu'on n'est pas à l'abri que le MEDEF recule sur l'annexe 10, mais pas sur l'annexe 8, les techniciens. Vous savez qu'avant 2003, on avait une annexe cinéma, spectacle enregistré, avec les artistes et les techniciens, et une annexe spectacle vivant, et qu'en 2003, on a séparé les personnels techniques des artistes. Et quand on voit toutes les campagnes qui sont menées actuellement dans la presse libérale contre le régime, ce régime d'assurance chômage, il y a quand même des attaques particulières sur les techniciens, puisqu'on va dire... Oh, quand même, dans ce régime d'assurance chômage, vous vous rendez compte, il y a des électriciens du bâtiment qui rentrent dans ce régime. Et puis, il y a des peintres aussi. Les peintres en bâtiment aussi sont indemnisés. Voilà, des serruriers, tout. Enfin, voilà, des gens qui n'ont pas la connaissance de nos métiers. Parce qu'il est évident, je connais un certain nombre d'électriciens du spectacle, il vaut mieux pas qu'ils aillent travailler sur un chantier. Et ça reste entre nous.
Ça, c'est clair.
Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Et imaginons un peu que les techniciens soient sortis de l'annexe 8, dans mon régime général. On n'est pas non plus à l'abri que, du coup, un certain nombre de techniciens quittent le statut de salariat pour l'auto-entrepreneur, parce que sans cotisation chômage, peut-être que le salariat sera moins intéressant sans allocation chômage. Donc c'est, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Donc on n'est pas à l'abri aussi que tout ça, ça vide aussi nos caisses professionnelles, l'ARDAS, Audience. Vous savez qu'actuellement, c'est, voilà, les cotisations ne sont pas à la hauteur des besoins en formation des salariés à l'ARDAS. Donc l'accès à la formation est très compliqué. Ben là, peut-être que, de fait, si un certain nombre de professionnels quittent le statut de salarié, ben, on n'est pas à l'abri que ce soit encore plus difficile pour les artistes. Et dans les artistes, donc, si on ne se bat pas tous ensemble, les artistes risquent d'avoir peut-être une annexe préservée, mais avec des conditions d'accès beaucoup plus difficiles. Je ne reviendrai pas sur, là-dessus. Et dans 6 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, peut-être une caisse professionnelle, parce que finalement, après, ils seront tout seuls pour se battre. Et c'est toujours la question de la division, et c'est pour ça qu'il faut rester absolument groupé sur cette revendication de rester ensemble dans une même annexe. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on va vous appeler à vous mobiliser sûrement sur des actions d'ici le 27 février. Il y a la mobilisation sur les annexes. On fait aussi une marche pour la culture le 12 mars, parce que moins 20% sur les budgets de la culture et sur les 3 prochaines années, bah, c'est aussi de l'emploi en moins. Donc bah, c'est des allocataires en moins, etc. C'est aussi une manière de faire disparaître aussi un certain nombre de professionnels, parce qu'on a de plus en plus d'échos de gens, d'intermittents, de techniciens qui ne trouvent plus de travail parce que les budgets baissent et donc tout ça, ça réduit leur nombre d'heures. Donc voilà, il faut absolument qu'on reste tous ensemble mobilisés. Donc on vous donne les rendez-vous le 27 février et le 12 mars pour la marche pour la culture également. Voilà, merci.
On passe la parole vite fait.
Juste revenir un instant sur le rapport d'étude de Mathieu Grégoire et Olivier Pielmis. Je parlais tout à l'heure des préconisations portées par une grande majorité de la profession, que ce soit des organisations salariales ou patronales, du secteur du spectacle et de l'audiovisuel. Et donc, ces préconisations communes, certaines d'entre elles, en tout cas, ont fait l'objet d'une étude commandée par le Syndéac, aux deux chercheurs indépendants du CNRS et de l'Université d'Amiens, spécialisés dans l'intermittence, donc Mathieu Grégoire, Olivier Pielmis. Ce rapport d'études très intéressant, de 35 pages, est disponible en téléchargement gratuit sur le site du Syndéac. Donc je vous invite à le télécharger, à le diffuser autour de vous, simplement parce que ça étaye nos préconisations sur une base scientifique comparée. Pour la première fois, une démarche indépendante a été faite sur nos préconisations. Et ça permettra aussi à chacun, à travers un argumentaire très élaboré de Mathieu, qui est quand même grand spécialiste de la question de l'intermittence et des origines même de ce régime spécifique d'assurance chômage depuis les années 30, et qui avait fait un très beau livre sur ce régime. Ouais, donc je vous invite à voir ses travaux. Absolument. Et notamment donc le dernier travail en date, qui est ce rapport d'étude, qui éclairera chacun sur un devenir possible à travers un modèle alternatif de notre régime spécifique.
Bravo Fabien.
Je voudrais simplement rajouter un élément. Il faut quand même se méfier de cette ministre. C'est pas parce qu'elle a dit hier qu'elle allait nous défendre, qu'elle va nous défendre si on ne bouge pas sur tout. Elle, pour l'instant, elle ne s'est pas vraiment avancée beaucoup sur la notion de 12 mois. Période de référence et indemnisation.
C'est exact.
Elle aime bien l'idée d'un cumul, de l'interdiction du cumul, enfin d'un plafonnement du cumul d'emploi et salaire et indemnité. Elle a dit qu'il ne fallait pas, hier, enfin, elle a dit qu'il ne fallait pas aggraver les critères d'accès. Mais les 12 mois, pour l'instant, elle ne veut pas s'avancer là-dessus. Et c'est capital. Ce n'est pas un capital, mais c'est capital.
Tu as raison.
Donc, il faut garder à l'esprit que cette ministre n'est pas toujours très fiable. Deuxième chose, parce que je voulais parler de cette ministre et de ce ministère, c'est que dans le projet de loi pour la création, qui n'est plus une loi d'orientation, mais une loi quand même pour la création, elle veut élargir les activités possibles pour des amateurs bénévoles et les introduire dans les spectacles autrefois professionnels.
donc, c'est encore une tentative de cette ministre et son ministère de casser le salariat. Et si nous avons des droits sociaux, c'est parce que depuis 1969, nous, les artistes, nous avons un statut, le seul statut que nous avons jusque-là.
Présomption.
Une présomption du statut de salariat. Nous sommes des salariés en général. Si on ne se tient pas à ça, et si on n'oblige pas cette ministre à se tenir à cela, on n'aura plus de droits sociaux.
Bravo.
Et on sera tous des auto-entrepreneurs. Et maintenant, je passe la parole à Jacques Ralic.
De solidarité. Enfin, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'elle a commencé.
Oui, c'est vrai.
Elle continue et elle continuera. Et moi, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que ce soir, chacun intervient dans le sens de se regrouper. Plusieurs fois, le mot ensemble a été prononcé. Et vous savez bien qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas tous ensemble, eh bien, ceux qui sont en face marquent des points. Or, comme tu l'as dit, la présomption de salariat, c'est un droit, en fait, que vous avez acquis. Mais aujourd'hui, ils veulent le casser. C'est quand même curieux, ce droit. On nous parle tout le temps de droit. Mais face à cette destruction prévue, moi je pense toujours à ceux qui utilisent un autre droit, celui de choisir le pays du monde où leur richesse leur permet de ne pas payer d'impôts quand ils s'y rendent avec leur argent. C'est la lutte des gens modestes, ouvriers, petite classe moyenne, etc., etc., précaires, contre les fortunés. Et ça, c'est une bataille française qui dure depuis la Révolution.
Les pays,
on peut chercher des textes dans les siècles passés. Je ne vous embêterai pas avec des citations, mais Victor Hugo, il a dit des choses clairement. Et il y en a un autre dont on ne parle pas assez, qui en 89 déjà dit aussi, c'était Robespierre. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'a traité de député populomane. Ça fait réfléchir sur aujourd'hui. Donc il faut s'occuper du Parlement. Parce que la fois dernière, ils avaient signé majoritairement à l'Assemblée nationale. Et le jour du débat, ils ont oublié de venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de quorum. Donc il y a un droit qui dit qu'il faut avoir le quorum. Alors je crois que ces choses-là sont très, très importantes, mais vous les avez dit tellement bien que je ne devrais pas, continuer de parler. Je vous dis simplement ma solidarité.
Bravo. Merci.
Un petit peu de temps. Simplement, sachez qu'il y avait une AG à Lille aujourd'hui, c'était une centaine. Il y avait une AG à Bordeaux. Il y aura des AG la semaine à Nantes et à Niort, je crois. Il faut organiser en région. Toulouse, il y a des choses de prévues. Voilà, j'ai pas tout sous les yeux, mais dans toutes les villes, on doit se mobiliser. Dans toutes les villes où on travaille. Et puis par ailleurs, Marseille me souffle tout le monde, mais on va partir toute la géographie. Il faut y aller partout. Et par ailleurs, en ce qui concerne la CGT, il y aura un appel à manifester au MEDEF, je ne sais pas exactement sous quelle forme, le 27, dès le 27, et donc on, de façon interprofessionnelle. Par ailleurs, nous, nous partirons de Palais-Royal pour rejoindre le MEDEF.
Ah, et on a oublié de dire un truc, on a oublié de dire que des préavis de grève seront déposés dans tous les secteurs d'activité, spectacle, cinéma,
musique.
Et ça, c'est très important pour permettre aux gens de se libérer et de participer à la mobilisation.